Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou campent sur leurs positions respectives. Le président français recevait hier à l'Élysée le premier ministre israélien et Emmanuel Macron a mis en garde contre toute escalade vers une guerre au Moyen-Orient, alors que Benjamin Netanyahou l'exhortait à mettre une pression maximale sur l'Iran pour l'empêcher d'accéder à l'arme nucléaire.
Emmanuel Macron qui se rend aujourd'hui au Canada pour préparer le sommet du G7 et qui s'annonce ébranlé ce sommet par la guerre commerciale.
À suivre également dans ce journal, la prise en charge des enfants de djihadistes qui reviennent de Syrie ou d'Irak. La chef du service de l'enfance spécialisée dans ce dossier a accepté de répondre pour la première fois à un journaliste, Rémi Brancato de France Bleu Paris. L'inflation est-elle vraiment de retour en zone euro? Un indicateur positif pour la croissance à condition qu'il soit maîtrisé. C'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Et puis dans une quinzaine de minutes, la question du jour, logement et handicap. Pourquoi l'Assemblée a-t-elle voté la fin du 100% accessible? Nous poserons la question à Sabri Bendimerad, architecte et maître de conférence à l'école d'architecture de Normandie.
C'était hier soir à Paris, au Grand Palais. Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou donnaient le coup d'envoi de la saison culturelle croisée France-Israël à l'occasion des 70 ans de l'État hébreu. 400 manifestations artistiques et scientifiques dans les deux pays jusqu'en novembre prochain. Elles sont censées marquer la coopération et l'entente entre les deux pays, mais elles interviennent au moment où Benjamin Netanyahou cherche à convaincre les pays européens signataires de l'accord nucléaire avec Téhéran de renégocier le texte, de le durcir dans la foulée du retrait fracassant des États-Unis de l'accord le mois dernier. Tout faire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire alors que Téhéran a décidé hier d'augmenter ses capacités d'enrichissement d'uranium. Mais Emmanuel Macron a invité tout le monde à ne pas céder à cette escalade parce qu'elle ne mènerait qu'à une chose, le conflit au Proche et au Moyen-Orient. Une rencontre à l'Élysée suivie par Claude Guibal.
Il y a les sourires, les poignées de main, Benjamin Netanyahou qui appelle Emmanuel Macron par son prénom, Emmanuel Macron qui loue l'excellence de la coopération sécuritaire avec Israël, mais derrière l'apparente bonhomie de la rencontre d'hier, des positions qui restent figées sur la question de l'accord nucléaire avec l'Iran, cet accord que Benjamin Netanyahou veut voir disparaître au profit d'un dispositif plus contraignant.
Que les choses soient claires, je n'ai pas demandé au président Macron de quitter l'accord. Je pense que les réalités économiques trancheront ce sujet.
Benjamin Netanyahou est clair, ce que cherche Israël, c'est stopper l'expansion iranienne au Proche-Orient.
L'accord a permis à l'Iran de renflouer ses caisses. Ils ont utilisé cet argent pas pour leur développement, ni pour être plus modérés, puisque l'oppression et la tyrannie continuent dans ce pays. Ils ont pris l'argent pour essayer de conquérir le Moyen-Orient. Voilà ce qu'ils ont fait.
Mais pour Emmanuel Macron, pas question de remettre en cause l'accord passé en 2015 avec Téhéran.
C'est un pilier, il est utile mais pas suffisant. Il faut qu'on le complète par l'après-2025, qu'on traite les sujets balistiques et qu'on traite des activités de l'Iran dans toute la région.
À commencer par la Syrie, où la présence iranienne est perçue comme une menace vitale pour Israël. Un constat d'inquiétude tout aussi partagé par Paris, qui s'inquiète de ses conséquences sur la stabilité du Liban et de tout le Proche-Orient.
Et alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit rencontrer aujourd'hui à Londres la Première ministre britannique Theresa May, en France, des militants pro-palestiniens continuent d'appeler au boycott de produits israéliens. Le Bureau national de vigilance de l'antisémitisme a déposé plusieurs plaintes contre des opérations menées dans des supermarchés en région lyonnaise, parisienne notamment, et de pointer du doigt le mouvement BDS, boycott des investissements sanctions contre Israël. Les précisions de Clarence Rodriguez.
Depuis 15 jours, une vidéo viralise les réseaux sociaux. La scène se déroule fin mai au carrefour de Chambourcy dans les Yvelines. Elle montre un homme se présentant comme musulman. On le voit faire pression sur le chef de rayon afin qu'il retire les paquets de dattes en provenance d'Israël. Interrogée, la direction de communication de Carrefour France préfère jouer la carte de la discrétion et de la diplomatie et de préciser « pour nous ». Pas de politique. Ce genre d'opération commando s'est déjà produit dans d'autres super ou hypermarchés de Drancy, dans la banlieue lyonnaise, ou d'Itsatsu, dans les Pyrénées-Atlantiques. Même mode opératoire pour le président du Conseil représentatif des institutions juives de France. À travers ces actes antisémites, ce sont les juifs que l'on vise. Francis Khalifa réclame purement et simplement l'interdiction du mouvement boycott des investissements sanctions présent dans des dizaines de pays dans le monde. Un mouvement devenu ces dernières années la bête noire des Israéliens. En attendant, deux plaintes ont été déposées contre le BDS. Le CRIF considère que ces actes de discrimination doivent être lourdement punis par la justice. Il y a 3 ans, la Cour de cassation de Colmar avait donné tort aux activistes pro-palestiniens qui avaient appelé au boycott de produits israéliens au carrefour de Lisac, près de Mulhouse. La France demeure l'un des rares pays à interdire les actions du mouvement BDS.
Ils ont pour point commun d'avoir tenté en vain d'amadouer Donald Trump pour le convaincre de renoncer à son projet de surtaxe. Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Justin Trudeau vont tenter de resserrer leurs liens aujourd'hui à Ottawa, juste avant un sommet du G7 au Québec qui s'annonce fracturé par la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, taxé à 25% l'acier en provenance de l'Union européenne et du Canada notamment, 10% de surtaxe sur l'aluminium. Autre pomme de discorde entre Ottawa et Washington, l'avenir de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain qui lie Canada, États-Unis et Mexique et dont pourraient se retirer les États-Unis. C'est ce qu'a répété l'un des conseillers économiques de Donald Trump, Larry Kudlow, hier. Washington envisage désormais des négociations séparées, ce qui freinerait fortement l'économie canadienne, selon le Fonds monétaire international. Mais le Canada y a opposé une fin de non-recevoir. Pour l'instant, la correspondance de Pascal Gricola.
Cela fait plusieurs mois que Donald Trump menace périodiquement de se retirer de l'ALENA. Les négociations qui durent depuis plus d'un an entre les trois partenaires doivent maintenant s'interrompre. En effet, la campagne présidentielle mexicaine commence, suivie cet automne des élections américaines de mi-mandat. Il est donc matériellement impossible qu'une entente survienne en 2018. Très impliqué dans ces discussions, le Canada garde le cap cependant. Pas question pour l'instant de privilégier une entente bilatérale avec les États-Unis plutôt qu'un accord commercial à trois avec le Mexique. Le ministre canadien du commerce international a été très clair. Son gouvernement veut moderniser l'ALENA afin de profiter des avantages d'une économie intégrée à l'échelle du continent nord-américain. De toute façon, Donald Trump a beau annoncer qu'il souhaite mettre fin à l'ALENA, rien ne prouve qu'il puisse prendre cette décision. L'accord a en effet été voté par le Congrès américain en 1994 et les représentants auront sans doute à se prononcer à ce sujet.
Pascal Guéricola, Québec pour France Culture. Washington qui appose décidément son empreinte sur les relations diplomatiques. L'Organisation des États américains, composée de 34 membres, a adopté hier une résolution pour débuter le processus d'exclusion du Venezuela de l'organisation. Après la réélection contestée le mois dernier du socialiste Nicolas Maduro à la présidence vénézuélienne, les États-Unis l'avaient demandé. Les États-Unis qui considèrent ce scrutin comme une imposture visant à favoriser une dictature qui a dévasté une économie autrefois prospère. En Italie, le nouveau chef du gouvernement populiste Giuseppe Conte a obtenu hier la confiance du Sénat devant lequel il a défendu sa politique, lutte contre, je cite, le business de l'immigration, relance de la croissance par baisse des impôts et hausse des dépenses de l'État, dépenses sociales notamment, ainsi qu'une ouverture vers la Russie. Aujourd'hui, Giuseppe Conte doit obtenir le vote de confiance des députés. On y revient dans le journal de 7h30.
Eh bien, il est 7h08, vous écoutez les matins de France Culture et c'est la suite du journal de Catherine Dutu. Un suspect belge a été remis à la France hier, écroué, mis en examen pour sa complicité dans la préparation des attentats djihadistes du 13 novembre 2015.
Cet homme, arrêté en mars 2016 en Belgique, s'appelle Yassine Attar. C'est le frère d'Oussama Attar, un vétéran du djihad soupçonné d'avoir piloté ses attaques du 13 novembre depuis la Syrie. Oussama Attar, qui n'a jamais été interpellé, lui. Yassine Attar, son frère, a été transféré en France en vue d'un mandat d'arrêt des juges antiterroristes. Il a donc été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels et pour des complicités de séquestration, d'assassinat et de tentative d'assassinat terroriste en bande organisée pour les attentats de Paris et de Saint-Denis qui ont fait, je le rappelle, 130 morts. Arrêtons-nous à présent sur la prise en charge des enfants de djihadistes qui reviennent de Syrie ou d'Irak. Depuis 2 ans environ maintenant, des Français ou des Françaises soupçonnés d'être partis combattre dans les rangs de Daesh sont de retour en France. Les parents sont immédiatement incarcérés, leurs enfants placés. Comme la plupart des retours s'effectuent à Roissy, c'est la Seine-Saint-Denis dont le tribunal est compétent sur la zone aéroportuaire qui a la charge de ces enfants de présumés djihadistes. Depuis 2 ans, 56 mineurs ont été suivis par le tribunal de Bobigny. Parmi eux, 37 ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis. La chef du service a accepté de répondre pour la première fois à un journaliste, Rémi Brancato de France Bleu Paris.
Daphné Bogo a l'habitude des enfants séparés de leurs parents, mais pour la chef du service de l'aide sociale à l'enfance dans le 93, la différence c'est que ces 37 enfants revenus de Syrie ou d'Irak depuis un an et demi ont une histoire bien particulière.
Il y a certains enfants qui ont vécu dans des environnements de guerre, qui ont vu des armes, étaient dans des conditions matérielles très difficiles, de manque de nourriture. Une des manifestations principales, c'est leur fatigue, des choses qu'on peut soigner assez rapidement.
Dès l'aéroport, ils voient donc un médecin et sont en ensuite suivis par des psychiatres, la plupart sont placés en famille d'accueil. Des formations ont été organisées pour les travailleurs sociaux et le protocole s'est ajusté.
On est un peu des pionniers et on construit la doctrine avec les cas concrets et surtout on n'a pas beaucoup de recul sur ces cas. Il ne faut pas négliger des craintes du fait de la spécificité de ces cas dont on parle beaucoup dans les médias qui peuvent générer du stress chez les professionnels qui sont formés à ça.
Des professionnels qui font face à cette question, ces enfants sont-ils des bombes à retardement? C'est l'expression employée par le procureur de Paris, François Molins, la plupart à moins de 5 ans et parlent peu ou pas, alors Daphné Bogo reste prudente.
Qu'est-ce qui se passera dans 15 ans? Ça, nous, on est incapable de le dire à l'heure qu'il est.
Et pour poursuivre cet accompagnement, Stéphane Troussel, le président du département de Seine-Saint-Denis, vient d'écrire au Premier ministre pour demander une aide financière.
Rémi Brancato de France Bleu Paris. Le partage d'informations sur les individus suspectés de radicalisation entre les maires d'arrondissement de Paris et la préfecture va être instauré dans la capitale. C'est ce qu'a annoncé hier un représentant du préfet lors d'une séance au Conseil de Paris. Un pas de plus pour la réforme ferroviaire. Les sénateurs ont adopté hier soir en première lecture le projet de loi qu'ils avaient modifié pour donner certains gages aux syndicats dits réformistes, l'UNSA et la CFDT, comme gravé par exemple dans le marbre le principe de l'incessibilité de la SNCF, préserver également les dessertes TGV utiles à l'aménagement du territoire ou encore renforcer des garanties offertes aux salariés pour revenir entre 3 et 8 ans après leur départ de la SNCF vers un groupe privé. Mais ces syndicats excluent à ce stade de mettre fin à la grève afin de peser jusqu'au bout sur le processus parlementaire. Non coupable, Harvey Weinstein a prononcé ces mots hier devant un juge à Manhattan. Le producteur américain déchu est venu entendre la lecture de son acte d'accusation et plaider non coupable donc, après avoir été inculpé de viol et d'agression sexuelle le 25 mai dernier, Marco Voltaire.
Allez, cette fois, c'est sans les menottes, libre sous caution, qu'Harvey Weinstein est arrivé à la cour criminelle de New York. L'ancien producteur, accompagné de son avocat Benjamin Braffman, est venu entendre la lecture de l'acte d'accusation avant, comme prévu, de plaider non coupable. « Not guilty », a simplement dit Harvey Weinstein au juge, pour donc rejeter les allégations de deux femmes. L'une l'accuse de l'avoir violée, l'autre de l'avoir forcée à une fellation. Avec ce plaider non coupable, la bataille judiciaire est définitivement lancée.
« We begin our fight now.
Nous allons commencer à nous battre dès aujourd'hui, a dit Benjamin Braffman à la sortie du tribunal. Si nous réussissons, il n'y aura peut-être pas de procès. Et s'il y a un procès, nous allons laver l'honneur de M. Weinstein. Un peu plus tôt devant le juge, Benjamin Braffman avait demandé à ce que l'affaire soit traitée par la cour et non pas par les médias. En cas de procès, comme dans l'affaire Bill Cosby, on s'attend à ce que d'autres femmes parmi les dizaines qui accusent Weinstein d'agression ou d'harcèlement viennent elles aussi raconter leur histoire devant les jurés.
Marco Voltaire à New York pour France Culture.